13h-14h, Sport Campus avec Alain, Nicolas, Louis, présenté par Mélissa.
Et bonjour à toutes et à tous, on est mercredi, il est 13h, ce qui veut dire que vous êtes à l'écoute de Sport Campus en direct sur le 88.1. Comme toutes les semaines, on se retrouve ensemble pour parler sport pendant une heure et on démarre tout de suite cette émission par un tour de table avec Alain. Salut Alain.
Salut.
Comment tu vas aujourd'hui?
Top, nickel.
Et on est aussi avec Nicolas Loubert. Salut Nicolas.
Salut à tous.
Et puis on accueille Louis. Salut Louis.
Salut.
Et on est aussi avec Claude Darioren, un habitué qui vient de plus en plus souvent à l'antenne. Bonjour Claude.
Bonjour.
Et puis on accueille bien évidemment notre invité du jour, il s'agit de Marius Trésor, grand footballeur international émérite, qu'on reçoit donc aujourd'hui. Bonjour Marius, comment allez-vous?
Bonjour à tous, ça va très bien.
Alors aujourd'hui la thématique de l'émission tourne autour de vous, Marius Trésor, et je laisse tout de suite la parole à Alain.
Avant de débuter l'émission, j'aimerais juste dire un petit truc. À une époque où on dit que la parole elle se perd de plus en plus, j'aimerais dire qu'il y a une personne autour de la table que je dois remercier parce qu'autour d'un apéro il m'avait donné sa parole de m'aider par rapport à ses activités professionnelles, de me mettre en contact avec des sportifs de haut niveau. Merci monsieur Claude Darioren.
Oh, c'est moi. Ouais, c'est un plaisir.
Mais voilà, on va peut-être démarrer avec Marius Trésor. Marius Trésor, on le connaît, on sait qui est Marius Trésor à l'international. Tu nous viens d'où, Marius Trésor, à la base?
Ouf, très loin. De la Guadeloupe. J'ai quitté mon île natale en 1969 pour Ajaccio.
Année érotique.
Où je suis resté 3 années avant d'être transféré à Marseille, où je suis resté 8 ans. Et ensuite, je me suis retrouvé à Bordeaux au temps de notre président Claude Bèze. À cette époque-là, il n'y avait pas d'agent, il y avait pas, donc on se débrouillait comme on pouvait pour. J'arrivais en fin de contrat avec Marseille et j'étais chez moi. J'ai reçu un coup de fil. C'est pas comme maintenant. Il y avait pas de portable du président Claude Bèze me demandant est-ce que ça me plairait de venir à Bordeaux. Il me dit, je lui dis oui, il y a pas de problème. Il me dit mais avant il faut d'abord aller voir notre futur entraîneur qui était Aimé Jacquet et qui était à ce moment-là à Lyon. Donc j'ai pris ma voiture, Marseille-Lyon. J'ai rencontré Mémé, ça s'est très bien passé. Et j'étais venu à Bordeaux en 1980 pour une année. Je suis toujours là.
Mais avant tout ce parcours-là, on va repartir de la Guadeloupe. Tu as un titre qui quoi, te tient à cœur, tu es champion de Guadeloupe et tu joues avant-centre, c'est ça non?
Oui, j'étais venu pour jouer avant-centre à Ajaccio, mais j'ai vite compris au bout d'un mois que l'horizon était bouché. Donc un jour, on était... À cette époque-là, il y avait toujours une opposition entre les possibles et les probables.
Les probables, oui.
Comme on dit. Donc l'axe central avait joué un match à Reims et l'axe central était blessé. Donc pour faire le match, l'entraîneur qui était malheureusement qui nous a quittés déjà, c'était Alberto Muro. Il nous réunit les jeunes et il dit, bon, est-ce qu'il y en a un qui veut jouer défenseur? J'ai levé le doigt. Et à la fin de l'entraînement, il m'a dit, à partir de maintenant, tu t'entraîneras à ce poste-là. Et 2 mois après, il me lançait dans le grand bain. C'était contre Metz, qui avait un attaquant qui s'appelait Tripp, qui était costaud comme c'est pas possible. Et finalement, on fait 0-0 et tout se passe bien. Et à partir de là, je suis devenu défenseur.
Donc c'est toi qui choisis le poste de libéro en fait, parce qu'à la base c'est avant-centre, et tu choisis le poste, on t'y oblige pas quoi.
Ah non, ça s'est passé autrement, on a eu un entraîneur qui est arrivé et qui nous a fait jouer, qui voulait jouer avec un défenseur décroché. Et il m'a dit, c'est toi qui vas jouer à ce poste-là. Et je me suis habitué très rapidement. Et j'ai eu en tête aussi un entraînement que j'avais vu. J'étais en Guadeloupe et j'avais vu un Guadeloupéen qui était parti jouer en France et qui était revenu en vacances et qui montrait à son petit frère, c'était la famille Rugard, qui montrait à son petit frère comment tacler. Et moi, à ce moment-là, je jouais avant-centre, donc je regardais le geste et je trouvais ça vraiment extraordinaire. Et quand on m'a mis en position de libéro, ça m'est revenu et j'ai recommencé à faire les gestes qu'il avait montrés à son frère. Et finalement, ça ne m'a pas trop mal réussi.
Si on regarde le foot aujourd'hui, Marius Trésor, par rapport à tes qualités que tu avais, c'était ton physique, est-ce que tu crois qu'actuellement, là tu démarres le foot maintenant, est-ce que tu pourrais occuper ce poste avant-centre ou pas? Parce que maintenant, on cherche des grands costauds, enfin, tu le vois, c'est des bourrins. Quoi.
Voilà. Non, mais maintenant, je suis petit. Par rapport à quand on voit un garçon comme Haaland,
oui.
qui fait 1m80, plus de 1m90, qui est costaud comme ce n'est pas possible, le football a beaucoup changé. Par rapport à la façon dont je jouais, ce qui était autorisé sur un terrain, quand je regarde les matchs maintenant, je pense que je n'aurais pas terminé beaucoup de...
Oui, c'est pour ça que j'ai posé la question.
Je n'aurais pas terminé beaucoup de matchs. Pourquoi ? Parce que là, je trouve que ce qu'il y a de terrible dans le football, c'est qu'on a des gens qui arbitrent des matchs, mais qui n'ont pratiquement jamais joué au foot, qui ont du mal à détecter une simulation par rapport à une faute. J'ai une image en tête. Un match, c'était il y a quelques années, c'était Metz, Paris Saint-Germain. Il y a un garçon qui jouait à arrière gauche à Metz, Assou Ekoto, qui tacle virilement, qui tacle Mbappé. Il roule presque 10 mètres.
Il a arrêté sur le parking.
L'arbitre, de suite, carton rouge. Et le match venait de commencer. Et deux secondes après, Mbappé court comme un lapin. Et ça, personne n'a dit, mais s'il était blessé, il ne pourrait pas courir comme ça. Donc je trouve que c'est faussé. On a vu pendant la Coupe du Monde de 2018 une petite vidéo qui est sortie sur Neymar. Comment ça s'appelle? C'était en Italie, des gamins qui jouaient. Il y a l'entraîneur qui criait Neymar, et d'un seul coup, tous les garçons se mettaient à.
C'était l'école du cirque.
Et je trouve que ça dénature un peu le football. On sait que le football est un sport de contact, il peut y avoir, mais quand c'est fait comme il faut, ça doit passer. Et malheureusement, quand on voit la saison en cours, le nombre de cartons rouges qu'il y a, c'est terrible.
Claude, tu voulais poser une question peut-être ?
Ah non, 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 moi je bois les paroles de Marius. Juste, je suis un peu, non pas frustré, mais enfin, pas très content, parce qu'en fait, tu aurais pu m'inviter tout seul, parce qu'on a plein de choses en commun avec Marius. Alors ça se voit pas, mais on est tous les deux noirs, donc ça c'est pas mal. On a tous les deux joué au Girondins, mais ce qui nous différencie, c'est que lui, c'est une légende, moi, je ne suis pas grand-chose, et que lui, il a été un grand pro, et moi, j'ai été un petit amateur.
Lui, il fait des petits points, toi, tu te les fais tout seul.
Voilà, voilà. Donc, c'était juste pour te dire ça, quand même.
J'aimerais, Marius, que tu nous racontes un petit peu ton épopée ajaxienne, parce que c'est là que ça démarre ta carrière. C'est ce qui te met dans le football, quoi, on va dire ça. Ça se passe bien, Ajaccio, ça se passe. Tu pars à Marseille, pourquoi tu pars là-bas?
C'est pas moi.
À cette époque, on t'échange avec Courbis d'ailleurs à l'époque.
Oui, il y a eu 6 joueurs qui ont rejoint Ajaccio venant de Marseille. Plus à cette époque-là, ça c'était considéré comme le transfert le plus cher, plus 1 million. C'était en francs. 100 millions anciens francs.
Pour Marius Trésor.
Oui. Plus 6 joueurs prêtés par...
Plus 6 joueurs.
Dont faisait partie Roland Courbis. Donc. Et quand j'ai rencontré Roland quelques années après, Il me dit, tu te rends compte, ils ont fait une drôle de connerie à Marseille. Tu te rends compte, l'axe central qu'on aurait pu faire tous les deux. Donc, non, c'est... Mais moi, personnellement, ça a été une histoire assez compliquée. Au départ, je devais aller à Nice. Mais Nice avait un effectif assez réduit. Donc, ils ne pouvaient pas donner de joueurs à Ajaccio. Et Marseille, qui avait joué en Ligue des... On appelle ça maintenant Ligue des champions. Mais à cette époque-là, c'était la Coupe des clubs champions. Avait gagné 1-0 à Lyon parce que le terrain de Marseille était suspendu, le Vélodrome. Avait gagné 1-0 à Lyon contre l'équipe de la Juventus. Mais au match retour, ils perdent 3-0. Donc, ils sont éliminés. Et à partir de là, tu as les journalistes qui avaient un poids énorme à cette époque-là à l'Olympique de Marseille et qui disent, mais cette équipe, elle est trop vieille, il faut la rajeunir et tout. On a Salif Keita qui ne veut plus rester à Saint-Étienne, Marius Trésor qui est aussi sur le marché avec Ajaccio. Et on s'est retrouvés tous les deux à Marseille.
Louis, et après, j'ai une question.
Est-ce qu'il y a une pression supplémentaire à être l'un des transferts les plus importants à l'époque ?
Moi, personnellement, j'ai pas tenu compte. Parce que moi, tout ce qui comptait, c'est de pouvoir courir sur un terrain, de jouer au football. Mais de temps en temps, quand tu faisais un mauvais match, les gens te le faisaient comprendre.
Marius Trésor, on sait que le football fait rêver énormément de petits garçons qui souhaitent percer dans le milieu et devenir professionnels. Mais c'est aussi un vecteur d'émancipation pour quitter son milieu social et réussir dans la vie. Pour vous, c'était quoi ? C'était avant tout une passion ou aussi quelque chose pour vous émanciper et voir autre chose ?
Non, moi personnellement, je venais de quitter l'école. J'étais en classe de seconde, j'avais quitté l'école parce que j'en avais marre. Et je me suis retrouvé, je reçois une lettre d'Ajaccio. C'était, que je ne dis pas de bêtises, en octobre 68. Je reçois la lettre me demandant si je voulais venir tenter ma chance en France. Déjà, je dis, mais comment ils ont fait pour avoir mon adresse et m'envoyer une lettre et tout. Donc, il y a un gars qui m'appelle de Paris avec un accent antillais. Il dit, ah, je comprends maintenant. Il me dit, je suis Benon Berton, je travaille à la Ligue professionnelle de football. Je suis abonné au journal antillais France Antilles que je reçois. Et je trouve qu'on parle assez souvent de Marius Trésor et tout. En plus, tu as été champion avec ton équipe. Il y a Ajaccio qui aimerait bien te faire venir en France. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, j'avais ma maman, j'avais mon grand frère. Je leur ai demandé, j'avais pas encore fait de service militaire, je leur ai demandé. Ils m'ont dit, c'est ta vie, si tu as envie de partir, tu pars. En même temps, j'avais passé un concours pour suivre un stage pour être moniteur d'éducation physique. Et ça durait 2 ans. Donc, je demande à mon club, la Juventus de Sainte-Anne, est-ce qu'il y a possibilité de me trouver un petit boulot pour aider ma maman, parce qu'il fallait un pactage assez conséquent pour le stage. Pas de réponse. Et je reçois une 4e lettre d'Ajaccio, juin 69, je reçois la lettre et je réponds, je vais voir les dirigeants, mon président de la Juventus, je leur dis, si vous ne me trouvez pas un petit boulot pendant 3 mois simplement, parce que je devais commencer le stage au mois de le 10 octobre, j'ai dit, si vous ne me trouvez pas un boulot, je leur montre la lettre, je vais partir à Ajaccio. Et comme je n'avais jamais voyagé, ils se sont dit, oh, c'est une blague, il n'ira pas. Et je réponds par l'affirmatif à Ajaccio. Et je devais partir de la Guadeloupe le 15 août 69. 69. je reçois une lettre une semaine après. Non, j'avais un pote qui avait un transport en commun et pour empêcher la resquille, je me mettais derrière pour empêcher que les gens descendent par derrière et je l'ai fait plusieurs fois, et cavale et tout. Et je suis il était 7 heures du matin, j'entends le jeune Guadeloupéen Marius Trésor est arrivé aujourd'hui à Ajaccio. Tous les gens se retournent, me regardent, et tiens, il a peut-être un jumeau ou pas. Et je reçois une lettre du Guadeloupéen qui travaillait à la Ligue professionnelle de football, en m'incendiant, en me disant tu leur avais dit oui, et finalement t'es pas... Donc je lui réponds, je lui dis, je suis vraiment désolé, mais j'ai jamais reçu de billet de la part d'Ajaccio. Simplement, Ajaccio m'avait envoyé le billet dans un envoi normal. Et comme il y avait un dirigeant qui travaillait à la poste, je pense que c'est lui qui a fait disparaître la lettre. Donc, un mois après, j'ai reçu un billet avec accusé de réception. Donc, et je me suis retrouvé, au lieu de partir le 15 août, je suis parti le 16 septembre pour Ajaccio.
La mafia Guadeloupe. Mais quand on s'appelle Marius Trésor, qu'on est dans son île tranquille à Guadeloupe, c'est pas l'île où ça bouge le plus, et qu'on se retrouve parachuté à Ajaccio, où on sait très bien que c'est plutôt chaud, on gère ça comment là-bas ?
Super bien. Vous savez pourquoi ? Parce que la Corse est une île. Moi, j'habitais une île. Ils ne m'ont jamais considéré comme un étranger. Ils m'ont toujours considéré comme eux, un Ilien. Et à partir de là, ça a facilité la chose.
Tout à l'heure, tu parlais de ton départ pour Marseille. Si tu étais resté à Ajaccio, tu crois que tu aurais fait la carrière que tu as fait aujourd'hui ? Est-ce que Marseille n'a pas été ton plus gros tremplin ? Parce que c'est quand même Marseille, quoi.
Je ne sais pas. Bon, ma première sélection, je l'ai eue. J'étais à Ajaccio. J'étais à Ajaccio. Je pense que le sélectionneur qui était Georges Boulogne à cette époque-là ne regardait pas le club. Il regardait les prestations du joueur. Et c'est ce qui m'a permis... de faire la carrière internationale que j'ai faite.
Mais à l'époque, tu avais quand même Alain Bosquet qui te faisait un petit peu de l'ombre. Le fait d'avoir été à Marseille, ça ne t'a pas aidé à lui passer devant ?
Mais j'ai jamais pensé à passer devant qui que ce soit. Moi, tout ce qui comptait pour moi, c'est de pouvoir jouer au football. Moi, je vais vous dire, ma première sélection, c'était le 4 décembre 1971. C'était contre la Bulgarie en Bulgarie. J'avais jamais joué arrière-gauche.
2-2 ?
Non, on perd 2-1. J'avais jamais joué arrière-gauche. Première sélection, arrière-gauche. Donc j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que... Donc, quand j'ai vu les entraînements, j'ai dit, ils pensent vraiment... Le titulaire au poste, c'était un ancien Bordelais, Rostagny. Donc, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ? Donc, j'ai été voir Jean Djorkaeff, qui était le capitaine et qui jouait arrière droit. J'ai été le voir, j'ai dit, c'est la première fois que je joue, qu'on me fait jouer arrière gauche, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il m'a expliqué, avec un libéro qui est Bernard Bosquet, il ne faut pas être derrière le libéro, mais toujours l'arrière-droit, le stopper et l'arrière-gauche. Toujours en ligne comme ça.
Vous jouiez avec un joueur décroché à l'époque alors ?
Oui, oui, libéro. Mmh. On appelle ça le libéro.
Le libéro, ouais.
Et le deuxième match, c'est en Roumanie. Là, on perd 2-0 et arrière-droit. C'est la première fois que je jouais arrière-droit. Donc, ça se passe bien. Bon, par rapport à la prestation a été applaudie par les journalistes, donc à partir de là, et j'ai retrouvé ma place de libéro quand nous sommes partis au mois de juin 70. Nous sommes partis à... Je dis 71, nous sommes partis en au Brésil faire une tournée.
Ah, pas le fameux but, non. C'est,
ouais, non, ça c'est encore...
C'est bien plus tard.
C'est un peu plus tard. C'était le 2-2 et là c'était... Ils appelaient ça la mini-coupe du monde. On était dans une poule avec l'Argentine, il y avait la Colombie, il y avait une sélection africaine et la France. Finalement, on termine à égalité de points avec l'Argentine, mais eux, ils avaient un meilleur goal average que nous. Et c'est pour ça, nous, on est éliminés et eux, ils continuent l'aventure.
Louis, tu veux le poser ?
Oui, vous avez pratiquement fait toute votre carrière en France. Est-ce que vous avez déjà eu l'envie ou l'idée de jouer, je ne sais pas, en Angleterre ou en Espagne ? Ou est-ce que la France a vraiment été le seul endroit où vous vous sentiez mieux ?
À cette époque-là, le football français sur le plan international n'était pas vraiment reconnu. On ne voyageait pas beaucoup. Donc, je crois que le premier footballeur français qui est parti à l'étranger, c'était Gilbert Gress. Non, avant Gilbert Gress, il y a eu Yvon Druiss, qui jouait à Monaco au temps de la belle équipe de Monaco.
Et qui a joué à Saint-Médard après. Il a été à Saint-Médard après, sur la fin de la carrière.
C'est lui ou son frère ?
Ben les deux, je crois, non ?
Ah, les deux, ouais. Parce qu'il est décédé il y a quelques temps. Et il y a Jean-François Douis qui est toujours dans la région. Donc, on avait parlé de quoi tout à l'heure ?
Jouer à l'étranger.
Oui, jouer à l'étranger. Moi, j'ai failli...
Le Bayern.
Oui. J'ai failli partir au Bayern en 1979.
Tu aurais été le premier joueur de couleur du Bayern, non ? Parce que...
Je crois,
ouais. Ouais. Parce que je sais que le premier d'Angleterre, c'était Viv Anderson en équipe nationale, mais de Bayern, à l'époque, il ne devait pas y en avoir beaucoup.
Donc, je crois qu'il y a eu Elbert, un Brésilien, qui a joué après. Bon, maintenant, c'est très coloré, le Bayern. Non, mais je suis monté à Munich, j'ai passé le contrôle
médical.
Tout était OK sur ce qu'ils allaient me donner. C'était impeccable. Je reviens sur Marseille. Il me restait 6 mois de contrat. Et là, je retrouve mon ami Bernard Bosquier, à qui j'avais pris de la place à Marseille. Ensuite, en équipe...
Et le Brassard.
En équipe de France.
Et le Brassard, tu avais pris aussi.
En équipe de France, donc... Il était directeur sportif de Marseille et il leur a demandé, pour les 6 mois de contrat qui me restaient, il leur a demandé 2 millions d'euros.
Il a mis la barre très haut et pour bloquer le truc.
Et le Bayern a refusé.
Claude, le clone de Marius Trésor, tu voulais poser une question, tu nous as dit, que...
Oui, une question. Alors, est-ce que c'est on peut parler de la reconversion peut-être oui. Enfin, non. Je voulais savoir comment, pour toi, tu as vécu ou tu es passé du statut de joueur avec la carrière qu'on connaît, le statut qu'on connaît, à passeur, formateur, accompagnateur. Voilà, comment s'est passée cette transition ? Est-ce que quelque chose qu'on t'a proposé ou est-ce que c'est quelque chose que tu avais peut-être en toi l'âme d'être un passeur, un éducateur aussi ?
Non, c'est quelque chose que moi j'ai proposé au président Claude Bèze. Quand j'ai mis un terme à ma carrière après une troisième opération du dos, troisième hernie discale, donc le professeur Sénégas m'a conseillé de mettre un terme à ma carrière pour le football au niveau. Donc, je suis parti, j'en avais vraiment marre. Je ne me voyais pas aller tous les matins au Hayan voir les gars avec qui je m'amusais, les voir s'entraîner comme ça, jouer.
Alors que
moi, je suis parti à la société Ricard comme animateur commercial.
Pas goûteur.
Non, animateur commercial, parce qu'à cette époque-là, c'était en été et il y avait des soirées qui étaient organisées par la société Ricard et moi, je faisais acte de présence et tout. Mais au bout de 3 mois, j'arrivais à ne pas boire, à rester. Donc j'ai dit, il suffit que ça penche du mauvais côté pour. Donc j'ai rencontré le président Bèze, il m'a dit, alors comment ça va? J'ai dit, c'est une belle société, mais je ne me sens pas très à l'aise là-dedans. Il m'a dit, ben, si tu veux, tu reviens au club. Parce que lui, il avait horreur que les joueurs se déplacent pour répondre à des manifestations et tout. Donc il m'a dit, tout le monde te connaît, donc tu seras le comment dirais-je encore
Le porte-parole un peu.
Un peu de l'équipe, et c'est toi qui iras faire représenter le club et tout.
L'ambassadeur.
Ouais, ouais. Mais j'avais quand même beaucoup de temps libre. Donc je lui ai dit, président, est-ce qu'il y a possibilité d'entraîner une équipe de jeunes? Et à cette époque-là, il y avait les minimes première année, minimes deuxième année. Et les minimes deuxième année, c'est Pierrot Labatte.
Ouais.
Qui formateur, qui s'en occupait, et avec lui, on s'est très bien entendu. Donc moi, j'avais les premières années et lui, les deuxièmes années. Après, en 89, la fédération a créé un championnat des moins de 15 ans. Donc je me suis occupé des moins de 15 ans au Girondins, et j'ai terminé à entraîner les... On avait deux équipes... de 17 ans. Patrick Battiston avait les 17 ans nationaux et moi je m'occupais des 17 ans.
Ouais. Tu as reconstitué la charnière avec,
avec Patrick.
Et je crois que Mathieu Bissigny a fait une meilleure carrière que toi chez Ricard. Tu le connais, Mathieu?
Oui, oui.
Ouais, il a fait une très très belle carrière chez Ricard.
C'est vrai?
Oui.
Il y avait le petit Babitaise aussi.
Non, mais en plus, ce qu'il y a, bon, les gens de Ricard, je les connaissais de Marseille. Donc, je suis resté 8 ans à Marseille. Et c'est un directeur de Marseille qui était monté à Bordeaux, qui est venu me voir en me disant... On aimerait bien que tu travailles avec nous et tout. C'est comme ça que... Mais ça a duré 3 mois.
Avant que Mélissa pose sa question, juste pour dire, quand il parlait de son rôle de formateur, je dois dire qu'on s'est croisés avec Marius, parce qu'à l'époque, j'avais les 15 ans de Lyon-Saint-Bruno, c'était les places fortes entre les Girondins. Et il m'énervait, Marius. Il m'énervait parce qu'il avait inventé la glacière. Maintenant, on fait tout un truc parce qu'il y a des entraîneurs, c'est ça. Il s'asseyait sur sa glacière, il ne disait pas un mot. Et il nous gagnait. Et moi, je gesticulais, je sautais partout, je ne gagnais pas. Voilà, c'est une petite anecdote que je voulais dire.
Et justement, Alain, en parlant de formation, moi j'ai une question un peu plus technique entre le football d'aujourd'hui et le football de votre époque. On sait que le sport a beaucoup évolué et que les joueurs sont mieux accompagnés à la fois sur le plan de la préparation physique et sur le plan médical. Est-ce qu'à votre époque, vous vous sentiez bien accompagné sur ce point de vue-là? Et c'était quoi la semaine type d'un joueur de football? Est-ce que vous avez beaucoup de préparation physique? Comment vous faisiez pour être au top niveau?
Oh, je dirais qu'on avait un préparateur physique. Moi, quand je suis arrivé à Bordeaux, l'entraîneur était Aimé Jacquet et le préparateur physique, c'était Bernard Michelena, et qui nous faisait travailler. Mais par rapport à maintenant, les deux objets de douleur qu'on avait, c'était le medicine ball et la corde à sauter, c'est tout. Alors que maintenant, tous les clubs, ils ont leur salle de préparation, de muscu, de tout. Bon, moi, personnellement, je pense que... Mais je n'aime pas comparer les époques. Moi, j'ai pris du plaisir à jouer au football à mon époque. Par rapport à maintenant, je vois que tout a changé. On voit un garçon comme Ronaldo... qui chez lui a une salle de musculation, quelque chose qui... Alors que nous, on n'avait pas ça, mais ça ne nous a pas empêché de prendre du plaisir à être sur un terrain de football, à courir, à jouer, à tacler, à sauter. Moi, je me suis régalé et le reste, très peu d'importance.
C'était Guy Caléja qui disait, moi, préparation physique, je la fais dans la OCEP. Non, mais on fait la pause peut-être, non?
Oui, on va faire une petite pause musicale avec une chanson que tu nous as suggérée, Alain, si tu veux en dire deux mots.
Oui. Ben, rien, c'est parce que Marius n'a pas toujours été footballeur, il a été chanteur, je crois. Non. Non,
non, j'ai toujours été footballeur.
Non, mais t'as chanté aussi. T'as
on
chanté
sort les
aussi.
Dossiers. On sort les dossiers.
Allez, on écoute. Et c'était le titre Sacré Marius, chanté par Marius Trésor, qui est en direct avec nous sur Radio Campus, le 88.1. Et on avait encore pas mal de questions à vous poser, n'est-ce pas, Alain ?
Oui, ben on va essayer de faire une deuxième partie. On va peut-être parler de ta vision du sport. Mais avant, j'aimerais te poser une petite question. Ajaccio, Marseille, Bordeaux, tes plus beaux souvenirs, c'est quoi ?
Ouf. J'ai pris, au cours de ces 15 années, j'ai pris du plaisir dans les trois clubs que j'ai fréquentés. Moi, je dirais toujours en premier, il y a Ajaccio, parce que c'est le club qui m'a fait traverser les océans sans m'avoir jamais vu jouer. Donc, ça, il fallait le faire. Marseille, c'est le football. Tout tourne autour du football à Marseille. Et quand je suis arrivé à Bordeaux... On avait des résultats, nous étions toujours dans les quatre premiers, donc qualifiés pour une coupe d'Europe. Et je disais à Alain Girès, mais avec les résultats qu'on a, si nous sommes à Marseille, c'est une révolution. Tout le stade serait plein à chaque fois. J'ai rencontré des gens qui, quand je suis arrivé, après la première année, qui me disaient « Oui, nous, on a été sevrés d'Europe pendant des années. Donc, si vous vous qualifiez pour une Coupe d'Europe, vous verrez que le stade va se remplir. » Saison 80-81, nous sommes qualifiés pour l'UEFA et après un premier tour, on va en Islande. Bon, on gagne facilement. ici, on reçoit l'équipe de Hambourg, qui à cette époque-là avait des costauds. Il y avait déjà Horst Rubesch. Il y avait Kevin Keegan qui était parti de Manchester pour aller à Hambourg. Donc c'était une équipe qui était quand même assez costaud, qui représentait le football européen. Premier match à aller ici, il y avait, je crois, entre 6 et 7 000 personnes. Le stade était pratiquement désert. Pourquoi ? C'est là qu'on s'est aperçu que les Bordelais même ne venaient pas tellement au match. C'est les alentours, mais il avait beaucoup, beaucoup plu. Les Charentais, les Basques qui venaient n'avaient pas pris la route par peur d'avoir accident. Et là, j'ai dit, c'est pas possible. Tu reçois Hambourg, même s'il a plu. On s'est aperçu que les Bordelais même ne venaient pas au stade. C'est les alentours qui venaient, qui remplissaient le stade. Et c'était vraiment dommage. Il a fallu attendre la Juventus. En 85,
j'y étais.
La Juventus en 85 pour que ça prenne vraiment, et aussi la création des groupes de supporters.
Ouais. Mais on parle que de club de Marius Trésor, mais moi il y a une image 40 ans après qui met encore les larmes. C'est quand tu nous plantes ce but contre l'Allemagne et qu'on perd. C'est vil. 40 ans après, Marius Trésor, dans ta tête, ça dit quoi? Tu te dis, mais c'est pas possible encore. On peut le refaire ce match, non?
Tu peux en parler? Tu arrives à en parler?
Oui, mais il y a une télé allemande juste avant la Coupe du Monde. Il y a eu aussi y a un très beau reportage sur Canal+. Les perdants magnifiques.
Oui.
Ça, je crois que ça s'appelle comme ça. Ils sont venus à la maison faire interview. Patrick Battiston qui avait toujours refusé de parler de ce match à participer. C'est vrai, moi personnellement, j'aimerais ne plus penser à ce match. Mais comme on m'en parle toujours, donc...
Mais on est obligé.
C'est... Moi personnellement, c'est...
Tu as revu l'arbitre du match ?
Non.
Si tu le revoyais ?
Non, il est décédé.
Ah mince.
Monsieur Corvert.
Nico ?
Oui, alors quand on entend les journalistes donner par exemple les résultats d'un match de foot, ils disent souvent, ben voilà, le PSG a gagné grâce à deux buts de Mbappé par exemple. Mais ils ne disent pas grâce aussi à une parade du goal, ils ne disent pas grâce au défenseur qui a sauvé sur sa ligne, etc. Donc quand on est défenseur comme vous l'avez été, comment vous réagissez à ça ? Est-ce que... on doit tout le temps mettre le focus sur les gens qui ont planté les buts, ou aussi parler des autres qui, sans eux, le match aurait peut-être été perdu.
Je vais vous donner un simple exemple. Il y a eu un milieu de terrain défensif et il y a eu un défenseur central. Il y a eu un gardien à obtenir le ballon d'or. Le premier gardien, c'était Yashin. C'est le seul qu'il a eu. Il y a un garçon qui jouait en Allemagne, Borussia Dortmund, qui a été après... qui est maintenant, comment on appelle ça, directeur sportif de cette équipe allemande, j'oublie son nom, qui l'a eu. Et il y a eu un défenseur central italien.
C'est Cannavaro.
Cannavaro, oui. Qui l'a eu. C'est les trois, soit numéro 10 ou attaquant, à l'avoir eu. Mais vous savez, quand je m'occupais des garçons, je leur disais, on prend un match de football. L'attaquant, l'avancante, va te manquer 3, 4, 5 occasions. À la dernière minute, il te plante un pion, tu gagnes 1-0, c'est lui le héros du match. Tu as le gardien qui va te faire parade sur parade. Malheureusement, les gants glissent, il prend le but, c'est sa faute. Le défenseur central, c'est exactement... Les défenseurs, c'est exactement pareil. C'est quelque chose qu'on ne pourra jamais changer au football.
Claude ?
Oui. Je pense qu'à la radio, on doit bien aimer les petites anecdotes. Alors moi, j'en ai une avec quelqu'un que tu as connu et j'aimerais peut-être que toi, tu nous sortes une ou deux anecdotes plutôt suaves et plutôt rigolotes. Alors, 78 à 82, je suis au Girondin, mais je te regarde de loin puisque je suis avec les jeunes. Et, mais il se trouve que c'est moi qui suis allé accueillir Mario Relmi, que tu as connu,
oui,
à l'aéroport. Quand il est arrivé à Bordeaux, il a dû arriver le 1er décembre ou je ne sais quoi. Il arrive de Guadeloupe avec un sous-pull, ça se portait, il a refusé de descendre de l'avion
parce qu'il faisait
trop froid. Et lui, ça a été vraiment un choc, voire un choc thermique, c'est le cas. Est-ce que tu as des petites choses comme ça, que ce soit avec des supporters, que ce soit quand tu es arrivé? Alors toi, tu es arrivé peut-être en septembre, donc tu es arrivé, il faisait encore beau. Mais est-ce que tu as des petites anecdotes?
Il ne faut pas oublier que je suis arrivé en Corse.
Et en Corse en plus.
Dans une
île
là
où l'affaire se...
où il faisait très 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 beau. Donc c'est quelque chose que je n'ai pas connu. Mais j'ai toujours dit, en quittant la Guadeloupe, admettons que c'était un club comme Valenciennes qui m'aurait fait venir. J'ai joué à Valenciennes, mais je me suis dit comment les gens font pour vivre avec ce froid qu'il fait. Moi, quand je suis arrivé à Ajaccio une année, on a joué à Lyon, c'était je crois pour Pâques, on a joué à Lyon et 3 jours après, on allait directement à Sedan. À Lyon, c'était le froid.
Mmh.
Et à Sedan, en plus du froid,
le vent.
Il y avait de la neige. Mmh. Ah, j'ai dit vivement mon retour en Corse. Hein.
Donc chez Roger Marche, le sanglier des Ardennes.
Ouais, c'est ça. Je crois que Louis, puis après on va parler un petit peu de ta vision du football maintenant, Marius.
Oui. Après avoir été sélectionné pour la première fois en équipe de France, est-ce que par la suite c'est devenu un objectif d'y retourner ou c'était juste un bonus d'une certaine manière?
Je pense que j'ai été le premier étonné à être appelé en équipe de France. Le premier match, c'était le 4 décembre 71, où ça s'était bien passé. Le deuxième match, je crois, c'est en février 72. Là encore, malgré la défaite, parce que j'ai bien commencé par 2 défaites, malgré les 2 défaites, les critiques avaient été bonnes. Et je me suis vraiment joué à ma vraie place quand nous sommes partis au Brésil en juin 72. Et on a fait ce tournoi où tout s'était vraiment bien, bien passé. Et je crois que à partir de là, je me suis dit... Il y a peut-être quelque chose à faire dans cette équipe de France, c'est-à-dire essayer de garder cette place. Bon, ce n'était pas devenu
une obsession,
mais je faisais tout sur le terrain pour être appelé à nouveau. Moi, personnellement, dans le foot, ce qui me plaisait, c'est de pouvoir m'amuser, courir, sauter... Et c'est, pour moi, c'était ça, le football. Je n'ai jamais considéré le football comme étant
un métier.
Mmh. Un métier. Moi, quand on te paye pour faire quelque chose que tu aimes, tu te dis tant mieux.
Et Marius a quand même eu 65 sélections en équipe de France. Il restait 2 ans au recordman des sélections. Il faut quand même le souligner. On va peut-être passer à la partie, t'aimes les Girondins de Bordeaux, peut-être plus que nous. On était d'ailleurs au stade hier soir. J'aimerais te poser une question, Marius, toi qui est peut-être plus à même de nous en parler. Le football de maintenant, moi je ne m'y reconnais plus par rapport au foot que tu as connu toi, le foot qu'on a connu nous. Tu le vois comment, toi, notamment au niveau des Girondins de Bordeaux?
Je pense que le football suit une certaine évolution. Je pense que la première équipe qui a voulu jouer de cette façon, ça a été Barcelone, qui faisait circuler le ballon, à fatiguer l'adversaire, à fatiguer l'adversaire, à courir. Mais devant, il y avait des buteurs, il y avait au milieu, tu avais, bon, maintenant il est parisien, mais tu avais un garçon comme Messi, comme Neymar, tu as eu Xavi et
Iniesta.
Et derrière, tu avais un garçon hollandais qui était capable, sur des coups francs, de te mettre des buts extraordinaires. C'est Coman. Tu avais une grosse équipe du Barça. Donc, faire tourner le ballon, tu deviens chèvre. Mais maintenant, on a...
Mais il y a des chèvres.
Maintenant, il y a beaucoup d'équipes qui veulent le faire. Moi, je vois quand on a passé l'axe
médiane,
qu'il faut aller vers le but adverse et que 2 secondes après, je vois que c'est mon gardien qui a le ballon. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas comme ça que tu vas pouvoir gagner un match en faisant tourner le ballon sans être... Hier soir, j'ai regardé le match de notre avant-centre, Maja.
Il touche pas un ballon.
On peut compter combien de ballons en 95 minutes qu'il a touché. Je comprends pas.
Mais Marius, est-ce que moi te couper, tu es près de la formation des Girondins de Bordeaux, hein?
J'étais.
T'étais. Mais en fait, t'as encore
quand
même.
Je suis à la retraite.
T'as encore quand même quelques échos.
La déformation. Maintenant.
Rassure-moi, rassure-moi, Marius. Est-ce qu'au niveau de la formation des Girondins de Bordeaux, on inculque cette façon de football
non,
ou pas?
Non, je pense que c'est au niveau professionnel. Je pense
c'est le choix de l'entraîneur.
Ah oui, c'est le choix de l'entraîneur. On l'a lu avec comment. Qui est parti après comme sélectionneur de la Pologne, Souza.
Souza, oui.
C'était pareil, à vouloir garder le ballon, mais ça t'apporte rien de jouer de cette façon. Et je vois que là encore, ça continue.
Mais quelques équipes l'ont fait, mais comme tu as dit tout à l'heure, on peut jouer un petit peu au ballon, on peut aspirer l'adversaire.
Bien sûr.
Mais il faut que devant, tu aies les éléments qui puissent provoquer.
Voilà.
Et hier, quand on voit un garçon comme Bakua, qui pour moi, c'est pas une épée, loin de là, il touche pas un ballon, il perd tous les ballons, donc tu n'as pas les éléments devant. Tu as parlé de Maja, il est dos au but, il touche pas un ballon. Donc est-ce qu'il n'y a pas une erreur aussi au niveau de du coach, on est unanime pour le dire, mais au niveau du recrutement, parce qu'on n'a pas les éléments devant pour jouer ce foot d'aspirer et d'envoyer devant.
Mais au niveau du recrutement, quand on regarde l'équipe de Bordeaux, c'est une équipe assez jeune, avec des garçons issus du centre de formation. Je pense que en ayant ces garçons, il aurait fallu bien les encadrer avec des garçons d'expérience pour qu'ils puissent montrer ce qu'ils valent. Ça n'a pas été le cas.
Il n'y a pas de cadre, en fait.
Voilà.
Il n'y a pas de cadre.
Défensivement, tu as un garçon qui est revenu, qui a été formé au Girondin. Tu as deux garçons qui ont été formés au Girondin de Bordeaux. C'est Barbé et Nsimba, ouais, qui sont revenus parce qu'ils aiment le club et ils ont vu que le club était en danger de disparition. Donc, ils ont fait des efforts pour revenir. Mais tu as un garçon comme Gregersen, malgré sa petite erreur hier sur le premier but, qui tient la route. Et après,
Michelin c'est... aussi, il tient la route, non? Il l'a joué hier.
Ouais, même fait, il tient la route quand il crève pas. Hein.
C'est un jeu de mots, je vous remercie de l'avoir relevé.
Il est rentré.
Il a des problèmes de valve, Michelin.
Non, mais tu as le petit qui a joué arrière droit, Bokele.
Oui,
Bokele
oui.
Qui a fait un gros match. Mais c'est qu'au milieu, par contre, moi, c'est quelque chose que j'aimerais qu'on m'explique. On a un garçon qui, pour moi, est peut-être le meilleur milieu de terrain qu'on a.
Delorier Chauvet, non?
Non, d'abord, le petit Sissoko.
Sissoko, oui.
Sissoko, je ne comprends pas pourquoi ce garçon est toujours sur le banc de touche.
Il est fragile.
Et pourquoi on le met sur le banc?
parce qu'il peut faire un quart d'heure, 20 minutes, mais il n'est pas encore en capacité physique de tenir un match. Enfin, c'est ce qui a été dit. Après, Marie, je vais te prendre la témoin, parce que tu étais au stade comme moi hier. Ce jeu de Baba, là, à repartir derrière, ce n'est pas une épée, Franck Sergio. Mais deux, trois fois, j'ai vu Franck Sergio lever les bras au ciel, il n'a aucune solution. Il n'a rien ni sur les couloirs, ni devant. Qu'est-ce qu'on fait? On repart derrière.
Mais, quand on,
mais ça, c'est le coach. Hein.
Quand on met un garçon comme Franck Sergio en tant que meneur de jeu, mais c'est à lui de trouver les solutions.
Non, mais tu as dit le mot, Marius. Franck Sergio, meneur de jeu, non? Tu
t'es trompé. Non, mais je dis, parce que je vois comment les deux, Mwenga et...
Mwenga, ouais. Et Lacou.
Et Lacou, c'est deux demi-défensifs.
Oui, ils étaient trois défensifs hier, parce que Franck Sergio, ce n'est pas un meneur de jeu.
Eh ben, donc, pourquoi le petit Chauben ne fait pas partie de...
Mais est-ce que ce n'est pas une demande de la direction, tout ça?
Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas.
Allez, dis-nous tout, Marius.
Non, mais non. Je ne suis pas dans les petits papiers, donc je peux pas vous dire. Mais je trouve que le petit Sissoko ne soit pas titulaire dans cette équipe. Quand on me dit qu'il est fragile, on le met remplaçant. À quoi ça sert?
Le faire démarrer. Le faire démarrer quand il est cramé, on
sort. Et si, ouais. Le voilà. Mettre en première mi-temps 50 minutes et puis après, tu peux sortir pour le faire évoluer.
J'ai du mal à comprendre.
Oui, Claude.
Oui, il est fort cet Alain parce qu'il arrive à faire dire à ses invités ce que lui.
Oui, ça fait deux mois et demi que je connais Alain, oui. Il n'a pas dit une qualité des Girondins voilà. Dès le début.
C'est la qualité d'un bon chroniqueur. Ouais.
Est-ce que tu peux, s'il te plaît, Marius, répondre par oui ou par non aux questions, pas aux questions, aux noms que je vais te donner, des joueurs contre lesquels tu aurais pu jouer? Ça permettra à nos auditeurs de savoir qui tu es. Cruyff, tu as joué contre lui?
Non.
Oui, non. Non. Pelé?
Non.
Maradona?
Oui.
Platini?
Oui.
Zarmac?
Oui.
Gires?
Oh, oui.
Rocheteau?
Oui.
Dinosov?
Oui.
Blokhin?
Oui.
Voilà, donc c'était juste pour nos auditeurs.
Et Claude Darioren?
Non.
Blokhin, j'ai joué contre lui quand c'était l'URSS.
Mm-hmm. Oui, c'était pas encore la Russie.
Marius, ses espoirs avec les Girondins de Bordeaux là. Tu vois une montée possible ou alors on va végéter, il y a 4 qui descendent l'année prochaine, ça va être chaud, non?
Si tu ne montes pas cette année, ça va être compliqué pour l'année prochaine parce qu'il va y avoir beaucoup de prétendants pour deux places. Mais tout n'est pas terminé. Hein. Bon, on a un calendrier assez costaud. Déjà, le prochain match, c'est le derby de la région à Pau qui a été battre
PFC.
Le PFC à Paris. Donc... ils étaient venus ici, on a égalisé à la dernière...
Par un jeune.
Dernière minute, c'était le petit...
Péringel
qui était rentré. Donc, ça va être compliqué, mais il faut que l'équipe se ressaisisse. On a perdu chez nous, donc il faut aller prendre les points
Vous en avez lâché pas mal, ouais.
À l'extérieur.
De notre côté, si on par malheur on ne monte pas ou qu'on descend, tous on a notre chance peut-être d'intégrer les Girondins, enfin de les réintégrer.
Et pourquoi pas.
Mais, ouais.
Non, moi, je pourrais pas.
Je suis un bon gardien. Hein.
Si sérieusement.
Si tu peux, puisque tu as fait ta rééducation au grand chêne avec ma maman il y a 2 ans. Et tout va bien depuis.
Mais j'ai deux prothèses.
Marius, plus sérieusement, on a lu tous ce matin dans les journaux, il n'y a qu'au Girondin de Bordeaux qui puisse nous arriver un gars comme ça. On prête hélice. On nous promet une recrue et là, le directeur sportif se fait voler sa valise avec son passeport. Il ne peut pas aller chercher un joueur.
La personne qui lui a volé sa valise ne voulait pas que Bordeaux se renforce.
La légende disait qu'il serait parti chercher Jean-Pierre Papin pour Jean-Vincent, trop pilant. Il n'a pas pu prendre l'avion, il y avait du vent.
Il a perdu une hélice peut-être, l'avion.
Avec les volants. Oui, il a mis ça.
Alors, on sait qu'aujourd'hui, le football, c'est toujours le sport très populaire par excellence. Et les joueurs de foot très connus sont souvent adulés, adoubés, ils sont vus un peu comme des dieux. Est-ce que c'était déjà le cas à votre époque? Est-ce que vous avez senti que vous étiez énormément apprécié, voire considéré comme une icône? Et est-ce que ça peut faire perdre un peu la tête aussi?
Oh, moi non. Elle est toujours là, donc.
Marius a toujours été très très abordable. Je me rappelle
tout à fait
quand j'étais au Girondin, je lui avais demandé un maillot et du jour au lendemain, il m'avait donné un maillot de l'équipe de France. T'as toujours répondu aux sollicitations et.
Mais est-ce que ça c'est la norme dans le milieu du football des gens des très grands joueurs?
Je parle de l'époque. Je parle de l'époque et du système pro.
À l'époque, il n'y avait pas autant cette effervescence, je pense aussi d'une certaine manière.
Ouais. Moi personnellement, j'ai eu 65 sélections en équipe de France. Et chez moi, il me restait deux maillots. Un maillot, c'est ma femme qui l'a pris, qui l'a mis
sous cadre
avec le brassard de capitaine. Et le deuxième maillot qui me restait, c'était pendant la Coupe du Monde 82. J'ai reçu un coup de téléphone de Christian Saramagna, l'ancien joueur de Saint-Étienne.
Entraîneur à Pau, après, je crois.
Ouais. Qui a une petite fille. Oui, il a une fondation. Il y a aussi le rugbyman de Biarritz qui fait les commentaires.
Yashvili.
Qui a aussi un enfant qui a les mêmes... Qui a la même maladie. Et il m'a demandé, c'était au mois de septembre, ils ont fait une sorte de tombola pour récupérer de l'argent. Parce que cette maladie, comme il n'y a pas beaucoup d'enfants qui sont atteints de cette maladie,
c'est une maladie rare.
Elle n'est pas prise en compte par... Donc, il leur fallait de l'argent. Et le deuxième maillot qui me restait, je le lui ai envoyé.
Marius, ma dernière question. Que penses-tu du cas Mbappé?
Mais est-ce que c'est un cas?
Je te pose la
question. Je pense que c'est un garçon qui a...
Surmédiatisé, c'est trop?
Non. C'est trop... Quand tu vois ce qu'il fait sur le terrain, on ne peut pas dire qu'il est surmédiatisé.
Surmédiatisé.
On ne peut pas dire qu'il est surmédiatisé. C'est un garçon qui a des qualités au-dessus de la moyenne et qui le démontre, je ne dirais pas à chaque fois sur le terrain, mais quand il peut, il le démontre. Quand tu penses de la Coupe du Monde, c'est le meilleur buteur de cette coupe du Monde. Quand on voit les buts qu'il marque, moi je dis simplement, c'est phénoménal.
Il ne se brûle pas les ailes en restant au Paris Saint-Germain?
Non. Pour aller où?
Non,
Barcelone?
Je ne pense pas.
Bon, non, pas Barcelone. Pas Barcelone. Moi, je pense que ce garçon...
Madrid?
Non, mais il est de
stratosphérique.
Il est de la région parisienne. Oui. Paris n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Il a simplement envie de faire partie de l'équipe parisienne qui va décrocher le Graal.
On parle d'Mbappé. En tout cas, bon, joueur exceptionnel. Je pense que c'est aussi une personnalité exceptionnelle. J'ai mon téléphone, donc je ne le montrerai qu'à vous parce que je ne pense pas être autorisé à le faire. Mais il s'est trouvé qu'il a soutenu spontanément, j'ai réussi à le capter en 3 jours, un enfant qui est aujourd'hui décédé et qui était atteint d'une maladie incurable et qui avait 2 rêves, rencontrer un Avenger et avoir un message d'Mbappé. Et Mbappé, 3 jours après, a envoyé une vidéo que je vous montrerai en soutien à ce petit jeune. Donc je pense qu'en plus... humainement, il est présent, mais il est dans un système qui est tellement complexe et qui nous échappe, nous. Hein.
Donc bientôt, Mbappé à Radio Campus.
On croise les doigts.
Ne mets pas la pression. Je t'ai déjà eu, Marius.
En plus, moi, je connais son père parce que je fais des déplacements de temps en temps avec le Variété Club de France. Et il y est à chaque match. Je pense que Kylian est vraiment... bien entouré.
Alors, il nous reste 1 minute, Alain.
Pour présenter peut-être l'émission prochaine, on va d'abord remercier chaleureusement Marius Trésor de sa...
Merci à vous.
...de sa venue très sympathique. C'est quelqu'un de très abordable et puis il est comme ça dans la vie aussi. L'émission mercredi prochain, j'aurai Célia Terki qui prépare les Paris 2024. Elle est paralympique.
Comment tu l'as eu, grâce à qui?
Grâce à Monsieur Claude Derioren.
Ah d'accord.
Si jamais.
Elle prépare Paris 2024, je l'ai eu, elle est très sympathique. Elle va venir avec Grant, son entraîneur, et elle va nous parler de ses ambitions, de ce qu'elle fait dans le sport, et ça va être encore une émission pleine d'émotions.
Radio Campus Bordeaux 88.1.
Eh bien, on arrive déjà au terme de ce Sport Campus. Un grand merci à tous d'avoir participé. Merci à Alain, Claude, Marius Trésor, Louis et Nicolas.
Merci.
Un grand merci d'avoir été à l'écoute.